Alors, donc, mardi 21 novembre 2023, troisième séance consacrée à la lecture de Schopenhauer. Je voudrais dire ici que, normalement, nous nous destinons à lire ce petit ouvrage, Métaphysique de l'amour, Métaphysique de la mort, des deux suppléments du monde comme volonté et comme représentation. Nous n'y sommes pas encore. J'ai préféré d'abord vous présenter la philosophie de Schopenhauer. Je pense que d'ici la prochaine séance, on aura vu suffisamment la démarche générale de cette philosophie pour ensuite, alors ce sera plutôt au second semestre, aborder ces textes. Que nous lirons plus rapidement, si vous voulez, hein, que je le fais normalement quand je lis un texte. Voilà, donc troisième séance consacrée à la lecture de Schopenhauer. Je rappelle que lors de la précédente séance, le 12 octobre, nous avons vu que l'étonnement philosophique a pour source l'inquiétude éprouvée devant la contingence du monde, ce qu'on avait montré, et aussi et surtout devant, elle a aussi pour source la stupéfaction douloureuse, ce sont les termes de Schopenhauer, la stupéfaction douloureuse devant le spectacle du mal qui règne dans le monde, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la souffrance ou de l'injustice. Ainsi, c'est surtout l'étonnement devant le mal qui constitue pour Schopenhauer le point de départ de l'interrogation philosophique. Toutefois, comme on l'a vu, la tentation des philosophes a été jusqu'ici de se dérober à la radicalité de la question du mal. Leur tentation a été en effet de la refouler en lui donnant des solutions qui reviennent à nier son existence d'une manière ou d'une autre. Soit en considérant comme le philosophe Spinoza, on en avait parlé, que le mal n'existe pas. Alors, évidemment, il faut bien l'entendre, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice, de méchanceté, etc. Mais ce que veut dire Spinoza, c'est qu'il n'y a pas le mal de manière absolue, il n'y a que du mauvais relativement à nous. Et pour Spinoza, tout ce qui existe, tout ce qui se produit existe et se produit nécessairement. Donc, dans le cadre d'une philosophie intégralement déterministe, le mal n'existe pas, au sens où existe, au sens où ce qui existe ne peut pas être autrement qu'il n'est. Bon, donc vous aviez cette solution, que je résume très très rapidement, évidemment, on l'a développé, je ne vais pas le refaire, hein. Deuxième solution, soit en relativisant et en justifiant la présence du mal dans le monde, cette fois-ci on ne nie pas l'existence du mal, mais on relativise sa présence et on la relativise en l'intégrant dans le plan de l'intelligence divine qui préside à la création du monde. Cette solution, c'est celle de la doctrine de l'optimisme. L'optimisme qui se résume dans la formule célèbre du philosophe Leibniz, « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Leibniz étant évidemment le philosophe qui représente le mieux ce courant. Or, pour Schopenhauer, ces solutions, aussi bien le spinozisme que l'optimisme, consiste chacune, à leur façon, à faire disparaître la question du mal. Aussi, une philosophie véritable ne doit pas chercher, pour lui, à l'occulter. Et donc, ici, vous verrez que le propos de Schopenhauer ne consistera pas à nous offrir une justification du monde, une justification du réel, destiné à nous consoler des maux de l'existence. Et sur ce point, la doctrine de l'optimisme, hein, qui est celle de Leibniz, finalement, prolonge la religion. Donc son propos, le propos de Schopenhauer, n'est pas de s'élever au-dessus de l'expérience que nous avons du monde pour se demander pourquoi il existe, pourquoi il contient du mal. Mais son propos est de chercher à savoir ce qui fait que le monde est tel qu'il engendre du mal. C'est-à-dire que la philosophie doit, selon Schopenhauer, elle doit chercher seulement à connaître ce qu'est le monde en lui-même, et non pas quelle est son origine, quelle est sa raison d'être. Et là, vous avez un premier texte, alors j'espère que vous l'avez sous les yeux. Premier texte qui se trouve, donc page 1, la fin du premier texte. Je lis les dernières lignes, hein. Ligne 28, à partir de la ligne 28, si vous voulez, voilà ce que Schopenhauer écrit. Le but de la philosophie ne peut pas être la recherche d'une cause efficiente ou d'une cause finale. Aujourd'hui du moins, elle ne se demande nullement d'où vient le monde et pourquoi il existe. La seule question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que le monde ? Voilà. Et c'est-à-dire qu'au fond, les métaphysiciens, jusqu'à présent, quand ils s'interrogeaient sur le monde, se demandaient pourquoi il existe ? Qu'est-ce qui fait qu'il contient du mal ? Voyez, c'était, au fond, on évoquait finalement une transcendance, un être divin, hein, qui était censé effectivement avoir créé le monde et qui effectivement avait au fond ses raisons de l'avoir créé. Vous voyez, c'était comme ça qu'on envisageait les choses. Bon, pour Schopenhauer, il ne s'agit pas de s'élever à une quelconque transcendance, il s'agit d'étudier le monde en lui-même. Il ne peut pas y avoir d'autres interrogations. C'est-à-dire qu'au fond, il quitte toute perspective religieuse, par exemple. Vous voyez ? Et puis vous avez, alors là je ne l'ai pas photocopié, un autre texte qui se trouve à la fin donc du monde comme volonté, comme représentation, où il fait la critique de la philosophie de Kant. Mais bon, peu importe, je vous cite l'extrait, il permet de préciser les choses. Voilà pourquoi je prétends que c'est en acquérant l'intelligence du monde lui-même que l'on arrive à résoudre le problème du monde. Ainsi, le devoir de la métaphysique n'est point de passer par-dessus l'expérience, en laquelle seul consiste le monde, mais au contraire, d'arriver à comprendre à fond l'expérience, attendu que l'expérience externe et interne est sans contredit la source principale de la connaissance. Évidemment, c'est une citation que vous ne pouvez pas intégralement comprendre, mais vous en avez une équivalente. Vous avez une citation équivalente dans le plan que je vous ai fourni. Vous savez, dans la deuxième partie, hein, où il dit, enfin c'est à peu près la même chose en fait, hein. C'est en acquérant l'intelligence du monde lui-même qu'on arrive à résoudre le problème du monde. Ainsi, le devoir de la métaphysique n'est point de passer par-dessus l'expérience en laquelle seul consiste le monde, mais au contraire, d'arriver à comprendre à fond l'expérience. Vous avez vu ce petit passage, il est en gras. Donc, l'objet d'interrogation philosophique, c'est le monde lui-même. C'est le monde lui-même qui constitue l'énigme à déchiffrer. Ainsi, l'ambition de la philosophie n'est rien moins que d'être la science du monde. Et c'est l'expression qu'emploie Schopenhauer. Mais, évidemment, en quoi consistera cette science ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Dès lors, le problème est de savoir par quelle méthode Schopenhauer compte y parvenir. Par quelle méthode cette science hein, donc la métaphysique, peut-elle élucider l'énigme du monde et résoudre la question du mal? Ici, on pourrait penser que la réponse la plus sûre à cette interrogation serait à chercher auprès des sciences. On pourrait penser que ce sont les sciences qui sont les mieux placées pour répondre à ce genre d'interrogation. Les sciences ne proposent-elles pas en effet d'éclairer de leur lumière les phénomènes du monde dans toute leur diversité? Aussi, pourquoi ne pas se fier à elles? N'ont-elles pas montré la fiabilité de leurs méthodes, la solidité de leurs acquis? Enfin, les progrès incessants dont elles sont animées ne témoignent-ils pas en faveur de leur supériorité? Alors, ici, il faut savoir que l'époque de Schopenhauer, écrit au début du XIXe siècle, l'époque de Schopenhauer est marquée par un essor sans précédent des sciences. Et aussi par la croyance positiviste en la possibilité de leur progrès indéfini. Hein, on mise sur le progrès des sciences. Hein. Alors, quel est le rapport de Schopenhauer à cet essor scientifique? Eh bien, il s'en explique un peu dans, vous savez, ce fameux texte que je vous ai photocopié, enfin largement en tout cas, j'ai donné pas mal d'extraits, dans le fameux supplément 17, hein, le chapitre 17 des suppléments, et qui a pour titre « Du besoin métaphysique de l'humanité ». Eh bien, à la fin de ce chapitre 17 des suppléments, eh bien, Schopenhauer s'exprime sur la question des sciences. Et on peut dire ici que Schopenhauer participe à cet essor et qu'en même temps, il s'en démarque. Alors, il s'est adonné lui-même à l'étude approfondie des sciences. Lors de ses études universitaires, il suit les cours d'un grand anatomiste qui s'appelle Blumenbach, qui est vraiment un anatomiste de renom. Il suit des cours de physiologie. Il suit des cours d'astronomie. Donc, vous voyez, il se consacre aux sciences. Et alors, vous pourriez penser que cette étude n'est que l'effet d'une curiosité intellectuelle finalement assez gratuite. Eh bien non. Cet intérêt scientifique lui est apparu comme une condition essentielle d'une activité philosophique sérieuse. Quand on veut être philosophe, il faut, disons, avoir un bagage scientifique. Et c'est ainsi qu'il écrit dans le chapitre 17 des suppléments. Alors là, je ne l'ai pas photocopié, mais bon, vous allez comprendre. Voici ce qu'il écrit. « Une connaissance aussi complète que possible de la nature est nécessaire pour poser avec précision le problème de la métaphysique. Aussi, personne ne devra-t-il essayer d'aborder cette science avant d'avoir acquis une connaissance, au moins générale, mais exacte, claire et coordonnée, des diverses branches de l'étude de la nature. » Il parle surtout des sciences de la nature. Les sciences humaines n'existent pas à cette époque, évidemment. Et quand elles vont commencer à exister, elles vont s'inspirer des méthodes des sciences de la nature. Alors, voyez ce qu'il écrit. Hein. Toutefois, si le philosophe doit s'appuyer sur une connaissance scientifique solide, il ne peut pas confondre sa recherche avec la recherche scientifique. Et c'est là que Schopenhauer se démarque des sciences. Comme il va le montrer, les sciences cherchent seulement à expliquer les phénomènes du monde. Qu'est-ce que nous entendons par les phénomènes du monde? C'est-à-dire les objets qui nous apparaissent dans l'expérience que nous en avons. C'est-à-dire que les sciences visent une connaissance particulière de chacun des objets de l'expérience. Alors, il y a la chimie, il y a la physique, il y a la biologie, etc., etc. Donc, elles visent une connaissance particulière de chacun des objets de l'expérience, mais elles ne peuvent aucunement rendre raison du monde en son entier. Et pour faire comprendre la différence entre la science et la métaphysique, en tout cas celle que conçoit Schopenhauer, eh bien, Schopenhauer utilise une métaphore, et il utilise beaucoup de métaphores. D'ailleurs, c'est pour ça que son texte est souvent assez agréable à lire, si vous voulez. Ça aide beaucoup à la compréhension. Schopenhauer compare la connaissance avec un fruit dont on voit l'écorce, mais dont on ne voit pas le noyau. Voyez ? Vous voyez cette image ? Et évidemment, le plus important dans un fruit, c'est le noyau. C'est le centre vital, si vous voulez. Eh bien, les sciences étudient l'écorce. Les sciences étudient l'écorce de la nature, tandis que la métaphysique cherche à connaître le noyau intime de la nature. Et alors, qu'est-ce que l'on entend par l'écorce de la nature ? Eh bien, c'est l'ensemble des phénomènes que les sciences expliquent chacune dans leur spécialité, dans leur particularité, et dont elles cherchent à montrer les enchaînements qui les lient les uns aux autres. Vous voyez, c'est ça, les phénomènes de la nature. Mais on va y revenir, vous allez voir, je vais donner des exemples. Qu'est-ce que l'on entend par le noyau intime de la nature ? C'est son fond invisible. Le noyau, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est le fond invisible, le fond caché de la nature. Son principe vital, qui se trouve à la fois masqué par l'écorce des phénomènes et qui se trouve à leur source. Vous voyez ? C'est-à-dire que les phénomènes ont pour source, hein, ici, ce fond que constitue le noyau intime de la nature. Donc, vous voyez que ce noyau intime de la nature, c'est la source invisible de tous les phénomènes, et ce noyau, dans la mesure où justement on ne le voit pas, où il est caché, eh bien, il ne peut qu'échapper à l'investigation scientifique. Mais nous allons voir ça de plus près en montrant quelques exemples. Parce que tout ça, évidemment, ce que je vous dis pour l'instant, c'est une généralité. Vous pouvez très bien ne pas être très convaincu par ce que je dis. Alors évidemment, on va ici s'appuyer sur des exemples. Qu'est-ce que font les sciences ? Elles énoncent des lois. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Une loi, c'est un rapport régulier entre des phénomènes. C'est-à-dire que les lois des sciences montrent comment les phénomènes sont constitués. Par exemple, l'eau, c'est quoi ? Ben, l'eau, c'est un composé d'oxygène et d'hydrogène. Donc, vous voyez, les sciences permettent déjà, dans un premier temps, de comprendre comment les phénomènes sont constitués. Je prends cet exemple. Et aussi, elles montrent comment les phénomènes s'enchaînent régulièrement les uns avec les autres. C'est-à-dire que ici, bon, vous allez voir, je vais prendre des exemples. Ce que nous permettent les lois de la nature, elles nous permettent d'expliquer tel effet par telle cause. Ou encore, elles nous permettent de prévoir l'apparition de tel effet quand telle cause se présente. Alors, un exemple. Très simple. On va prendre des exemples très simples. Il y a dilatation du métal, ou il y a encore fonte de la glace, sous l'effet de la chaleur. La loi, ici, établit le rapport nécessaire de cause à effet entre la chaleur et la dilatation du métal, ou la fonte de la glace. Ce qui, cependant, demeure mystérieux, c'est la force, ici la force du feu, qui dilate le métal, ou fait fondre la glace. Cette force, nous ne l'observons pas. Comme d'ailleurs, nous n'observons pas, de manière générale, les forces qui sont à l'œuvre dans les phénomènes. Nous inférons leur présence, alors nous supposons leur présence, à partir de l'observation des phénomènes, le phénomène de dilatation, le phénomène de la fonte, mais la nature de ces forces, eh bien ici, demeure pour nous un mystère. Nous supposons, vous voyez, une force qui va se transmettre du feu à de la flamme à l'objet qui va être dilaté, mais cette force, nous n'en faisons pas l'observation, nous la supposons. Vous voyez ? Alors je cite ici Schopenhauer. Schopenhauer, c'est dans le texte numéro 2, toujours page 1, et vous prenez la ligne 20, à partir de la ligne 20. Et voici ce qu'il écrit. On va jusqu'à la ligne 29. La force même qui se manifeste, la nature intime de ces phénomènes constants et réguliers, est pour elle un secret qui ne lui appartient pas. Pour elle, pour qui ? Pour la science. Elle est pour la science un secret qui ne lui appartient pas, pas plus dans le cas le plus simple que dans le cas le plus compliqué. Car bien que l'étiologie c'est l'étude des causes hein, qui transforme la matière, car bien que l'étiologie ait atteint ses résultats les plus parfaits dans la mécanique et les plus imparfaits dans la physiologie, néanmoins, la force qui fait tomber une pierre ou qui pousse un corps contre un autre n'est pas moins inconnue et mystérieuse pour nous, dans son essence, que celle qui produit les mouvements et la croissance de l'animal. Et je reprends, si vous voulez, cet exemple, que vous l'avez bien en tête. Vous voyez la fin, là. Néanmoins, la force qui fait tomber une pierre ou qui pousse un corps contre un autre n'est pas moins inconnue et mystérieuse pour nous, dans son essence, que celle qui produit les mouvements et la croissance de l'animal. Bon. Donc, la force de pesanteur, par exemple, le savant fait l'hypothèse, il décrit ses effets, mais il ne l'observe pas, il ne la saisit pas. La force qui permet la croissance de l'animal, c'est pareil, on la suppose, on ne la voit pas. Vous voyez ? C'est quelque chose d'invisible qui échappe à l'observation. Lorsqu'une pierre tombe, alors, là, ici, il faut une correction, parce que il y a souvent une confusion pratiquée dans le langage courant. Lorsqu'une pierre tombe, nous avons coutume de considérer que c'est la force de pesanteur qui est la cause de la chute. Mais c'est là une confusion, car c'est bien plutôt le voisinage de la terre qui est la cause de la chute. C'est-à-dire qu'ici, ce que nous demande Schopenhauer, c'est de faire la distinction entre une force naturelle, la force naturelle qui s'exerce à travers le phénomène de la chute de la pierre. Il faut distinguer cette force de la cause de cette chute. La cause de la chute, c'est simplement la proximité de la terre. Alors, ici, vous avez un deuxième texte qui va nous expliquer tout cela. C'est le texte qui vient ensuite, le numéro 3, en haut à droite. Et vous, c'est le texte numéro 3, donc regardez la ligne 1 à 8. Alors, attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Attendez, j'ai... c'est page 3, excusez-moi, c'est le texte, un texte qui se trouve page 3. Donc c'est le texte numéro 8 en fait. Parce que, bon, j'ai photocopié comme je pouvais, alors parfois, j'ai pas bien agencé. Donc, il se trouve, page 3, texte numéro 8, en haut à gauche. « C'est pourquoi, dit-il, il est faux de dire la pesanteur est la cause de la chute de la pierre. C'est bien plutôt le voisinage de la terre qui attire les corps. Supprimez la terre et la pierre ne tombera pas. » Bien qu'elle soit encore pesante. La force est en dehors de la chaîne des causes et des effets, qui suppose le temps, et qui n'a de signification que par rapport à lui, mais elle-même est en dehors du temps. Tel changement particulier a pour cause un autre changement particulier. Donc, la force en elle-même n'est pas une cause, mais elle est ce qui se manifeste à l'occasion d'une cause. Vous voyez la différence. C'est la cause, si vous voulez, de la chute de la pierre, c'est le voisinage. C'est le voisinage de la terre, et ce voisinage est l'occasion de la manifestation de la force de pesanteur. Et alors que les causes produisent leurs effets dans le temps, eh bien, les forces naturelles comme la pesanteur, qui rendent possible justement l'exercice de la cause, échappent au temps. Les forces échappent au temps. Ce qui est dans le temps, c'est une cause qui engendre tel effet particulier, et une cause, c'est toujours une cause particulière, tandis que la force qui se manifeste à travers la cause, elle est intemporelle. Vous voyez ? Une force naturelle, par exemple, peut ne pas se manifester pendant des milliers d'années jusqu'à ce qu'un événement soit l'occasion pour elle de se manifester. Et là, vous avez encore un autre texte qui nous l'explique. Mais attendez, oui, c'est le texte, cette fois-ci, numéro 2. Alors, je ne sais pas si je voulais photocopier celui-ci. Bon, écoutez, on va pas le chercher. Je vous lis juste cet extrait qui est assez simple. Pendant des milliers d'années, les forces chimiques sommeillent dans une matière, et c'est alors seulement qu'elles apparaissent, mais le temps n'existe que pour cette apparition, et non pour la force elle-même. C'est-à-dire qu'une force peut très bien ne pas s'exercer pendant des milliers d'années, vous voyez, elle n'en est pas moins présente. Et ce qui fait qu'elle va se déclencher, c'est qu'il va se trouver effectivement une circonstance qui lui permet de se déclencher. Donc les forces naturelles, quelles qu'elles soient, et on voit qu'ici la nature se présente comme un ensemble de forces naturelles, comme un ensemble de forces agissantes, eh bien les forces naturelles échappent au temps. Et c'est pourquoi on va parler de loi naturelle, parce que qu'est-ce que c'est qu'une loi naturelle? Comme le montre le texte numéro 2, lignes 14 à 17, texte numéro 2, donc page 1. Qu'est-ce que c'est qu'une loi naturelle? Eh bien, vous avez ici une formule qui va être assez claire. Ligne 14, j'ai dit 1, à 17, texte numéro 2. La constance immuable, j'ai souligné, la constance immuable avec laquelle se produit la manifestation de cette force, aussi souvent que se présente les conditions reconnues par l'éthiologie s'appellent loi naturelle. Au fond, on parle de loi parce qu'il y a une constance immuable avec laquelle se produit la manifestation d'une force. Voilà. Et c'est ainsi qu'on va parler, par exemple, de la loi de gravitation ou loi d'attraction. Hein, la loi de gravitation de Newton, la loi de gravitation universelle, on appelle ça aussi la loi d'attraction universelle, c'est cette loi qui décrit la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et aussi du mouvement des planètes. Force de gravitation ou force d'attraction, puisque selon cette loi, tout se passe comme si les corps s'attiraient mutuellement. C'est l'attraction terrestre qui explique la chute d'une pierre. Comme c'est l'attraction terrestre qui explique aussi que la Lune tombe. Oui, la Lune, normalement, tombe. Mais comme elle exerce à son tour, elle-même, une attraction sur la Terre, eh bien, elle ne tombe pas, elle tourne. Et vous voyez, ici, si vous voulez, si la masse de la Lune était beaucoup plus petite, beaucoup plus faible, évidemment, elle tomberait. Mais comme la masse est tout de même suffisamment importante, elle ne tombe pas. Vous voyez ? Bon. Mais au fond, ce que souligne ici Newton, c'est que la chute d'une pierre sur le sol, eh bien, est explicable de la même manière que la rotation de la Lune autour de la Terre. Alors, c'est d'ailleurs ce qui faisait que l'écrivain Paul Valéry disait qu'il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe alors que tout le monde voit qu'elle ne tombe pas. Vous voyez ? Donc, au fond, vous avez ici donc, une loi qui va expliquer des phénomènes apparemment très dissemblables, mais qui s'expliquent au fond de la même manière. Alors, tout le travail du savant consiste dès lors à exprimer de manière précise, mathématiquement, la loi de gravitation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la loi de gravitation ? Ce sont les conditions régulières sous lesquelles la force de gravitation se manifeste. Et là, je vous cite la formule, hein, la force est ici proportionnelle au produit des deux masses des corps qui s'attirent et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est-à-dire qu'au fond, ce que fait le savant, c'est qu'il décrit mathématiquement, de manière rigoureuse, au fond, les effets de cette force de gravitation. Et lorsque Newton parle de force de gravitation universelle, ou force d'attraction universelle, vous voyez qu'il montre ses effets, il montre son mode d'action, il énonce la loi qui régit ses effets, mais il ne se prononce pas sur la nature de cette force. Il ne se prononce pas sur la nature de la force de gravitation. Il la suppose, c'est tout. Il en décrit les effets, c'est tout. Il en décrit les effets de manière absolument rigoureuse, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette force en elle-même ? Vous voyez ? Le savant ici ne dit rien là-dessus. Alors, comme l'explique Schopenhauer, vous voyez, le savant suppose cette force, il suppose la présence de cette force à partir de l'observation des phénomènes, donc la chute des corps, le mouvement des planètes, mais la nature de cette force demeure pour lui un mystère. Alors déjà, avant Schopenhauer, vous aviez un philosophe écossais, David Hume, 60 ans plus jeune que Newton. Vous voyez, mais c'est à peu près la même époque, tout de même. Hume avait déjà souligné le point soulevé par Schopenhauer. Il avait, et d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut dire que Schopenhauer a le même diagnostic que Hume. Sauf que, vous allez voir, et c'est pour ça que je vais faire une petite comparaison, même si vous ne connaissez pas le philosophe Hume, vous allez comprendre ce qu'il dit. Ils ont tous les deux le même diagnostic, mais ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Et c'est intéressant pour ça. C'est pour ça que c'est intéressant de les comparer. Alors, que montre le philosophe Hume ? Hume a écrit un livre qui s'appelle « L'enquête sur l'entendement humain ». Donc, c'est un philosophe du XVIIIe siècle. Il a fréquenté Rousseau. Vous voyez, c'est un philosophe des Lumières, mais des Lumières écossaises. Alors, que montre Hume ? Ah non, mais il n'y a pas que les philosophes des Lumières français. Hein. Y a, chez les Écossais, pas mal de philosophes, hein, des Lumières. Alors, que montre Hume ? Eh bien, il montre que nous observons des conjonctions régulières entre des phénomènes. Par exemple, à chaque fois qu'il fait très froid, nous voyons l'eau se mettre à geler. Bon. Ou encore, autre exemple, à chaque fois qu'une boule de billard en choque une deuxième, eh bien, la deuxième se met en mouvement. Vous voyez ? On observe des conjonctions régulières de phénomènes. De sorte que toutes les fois que je vois apparaître le premier phénomène, eh bien, je m'attends à ce que le deuxième se produise. Toutes les fois que j'assiste à un grand froid, je m'attends à ce que l'eau se mette à geler. Mais pour Hume, il n'y a là aucun raisonnement. C'est-à-dire que la relation de cause à effet entre les deux phénomènes n'est pas du tout de l'ordre d'un raisonnement. Ce n'est pas une déduction logique. C'est l'effet de l'habitude. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien Hume vous répond. Regardez ce qui se passe. Imaginez un homme qui débarque la première fois dans le monde. Est-ce que il associerait par exemple le froid au gel de l'eau. Il n'établirait pas de lien nécessaire entre le phénomène du froid et le phénomène du gel. Ce n'est que parce qu'il a vu plusieurs fois et toujours même répété la même association qu'il s'attend à ce qu'elle se reproduise à nouveau, c'est tout. Donc il n'y a pas de raisonnement. Hein ? Alors il y aurait une déduction si on connaissait intimement la force qui est à l'intérieur, au fond, qui est inhérente au froid, qui entraîne le gel. Mais on ne peut pas la pénétrer, cette force. Vous voyez ? Toujours est-il pour Hume que nous ignorons tout de la force qui, étant déployée dans le premier phénomène, produit le deuxième comme effet. Donc nous ne faisons que constater tout simplement la constance du lien entre deux phénomènes, c'est tout. Mais alors évidemment ici, Hume se résigne. Il se résigne à cette ignorance. Pour lui, effectivement, nous n'avons aucune idée de la force qui se déploie à travers les phénomènes. Nous n'avons aucune idée de la force qui fait que le premier va transmettre quelque chose au deuxième. Nous ne pouvons que le constater, c'est tout. Eh bien, la différence de Schopenhauer ici avec Hume, c'est que Schopenhauer, lui, veut découvrir la nature intime des forces qui sont à l'œuvre dans les phénomènes que nous observons. Vous voyez, c'est ça la différence de Schopenhauer avec un philosophe comme Hume. Vous voyez, Hume disait que, au fond, cette force, nous ne pouvons pas la connaître. Eh bien, Schopenhauer, lui, va tenter, en tout cas, de découvrir la nature intime des forces qui sont à l'œuvre dans la production des phénomènes. Et il veut effectivement cerner la nature de ces forces. Et notamment, ce qui l'intéresse le plus, ce qu'il veut absolument découvrir, c'est la force qui est à l'origine du mal. Vous voyez, n'oubliez pas la question initiale, qui est la sienne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du mal ? Quelle est la force inhérente à la nature, hein, qui produit finalement le mal dans le monde? C'est ça la question qu'il se pose. Donc, il ne veut pas se contenter du spectacle du mal, il veut effectivement parvenir à saisir la nature, au fond, de la force qui engendre le mal. Alors, vous voyez ici, pour Schopenhauer, la métaphysique ne saurait se contenter des phénomènes, c'est-à-dire de ce que nous observons. Elle ne saurait se contenter de réduire la nature à la série de ses manifestations. Il s'agit, pour Schopenhauer, désormais de percer au-delà de la surface des choses, au-delà de l'écorce de la nature, pour accéder justement à son noyau intime. Et cette investigation le conduit à reprendre à nouveau frais la distinction que fait le philosophe Kant dans sa critique de la raison pure, parue en 1781, distinction que je vais vous expliquer entre la chose en soi et le phénomène. Alors, distinction capitale, vous voyez, que Schopenhauer reprend au philosophe Kant, hein, qui fait cette distinction dans la critique de la raison pure. Alors, qu'est-ce que c'est que veut dire ce terme de chose en soi ? C'est pas compliqué, vous allez voir. Hein. Le terme de chose en soi sert à désigner, chez Kant, les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, indépendamment de la manière dont elles nous apparaissent. Vous voyez, la chose en elle-même, indépendamment de la manière dont elle nous apparaît. Je prends un exemple, cette table. Cette table, par exemple, je l'aperçois comme, alors on va dire beige. Je l'aperçois comme beige, dure, rectangulaire. Il s'agit toutefois de la manière dont elle m'apparaît. Est-ce que la table possède les propriétés que j'ai énoncées en elle-même? Est-ce qu'en elle-même, elle est beige, dure, rectangulaire? Est-ce qu'elle est en elle-même, est-ce qu'elle a en elle-même toutes ses qualités, indépendamment ici de la manière dont elle m'apparaît? Alors, la réponse de Kant, c'est que nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien, et ici, il serait peut-être naïf de croire que c'est parce que la table est jaune, c'est parce que la table est beige, que je la perçois beige. Je ne peux pas assurer que la table a les propriétés par lesquelles je la perçois. Vous voyez ? Il faut faire une distinction. Donc, je ne peux pas prétendre que l'objet est en soi ce que je perçois, est en lui-même ce que je perçois, comme si la perception laissait voir les choses telles qu'elles sont, en toute transparence. Donc, pour savoir si la table possède en elle-même les propriétés par lesquelles je la perçois, ben, il faudrait que je sorte de la représentation que j'en ai. Il faudrait que je sorte de la représentation que j'en ai pour vérifier si cette représentation correspond aux propriétés effectives de la table. Or, évidemment, il nous est impossible de sortir de notre représentation pour vérifier que notre représentation de telle chose est conforme à ce qu'est la chose en dehors de notre représentation. Vous me suivez? Je ne peux pas sortir de mon esprit, de ma représentation, pour vérifier si cette représentation est conforme à ce qu'est la chose en elle-même. Je ne peux pas, ça. Je ne peux pas sortir de mon esprit. Hein, bon. Par conséquent, pour Kant, nous ne pouvons pas connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas connaître ce qu'il appelle la chose en soi. Vous voyez ? Nous ne pouvons connaître la chose que telle qu'elle nous apparaît. Et il a un mot pour désigner la chose telle qu'elle nous apparaît. Il a le terme de phénomène. Le phénomène, c'est la chose telle qu'elle nous apparaît. Phénomène signifiant en grec apparition. Manifestation. Vous voyez, le phénomène, c'est la manifestation de la chose pour moi. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, nous ne connaissons que des phénomènes. Nous ne connaissons les choses que telles qu'elles nous apparaissent, que telles qu'elles apparaissent à notre perception. Et telles qu'elles apparaissent à notre perception en vertu des structures du sujet percevant. Parce que, effectivement, si vous y réfléchissez, vous ne pouvez pas parler ici de la perception indépendamment de la manière dont nous percevons. Il y a des structures de l'esprit qui conditionnent ici la perception. Vous voyez ? Et ce que fera faire plus tard ici Schopenhauer, qu'il faudra dégager. Vous voyez ? Donc, mais n'allons pas trop vite. Vous voyez que la connaissance que nous avons des choses n'est jamais que la connaissance des choses telles qu'elles nous apparaissent. C'est tout. Alors cette connaissance qu'on va dire phénoménale, et la connaissance scientifique est une connaissance phénoménale, eh bien cette connaissance, si vous voulez, a deux aspects. Elle a un aspect matériel. Qu'est-ce que l'on entend par cet aspect matériel ? Ben simplement, par cet aspect matériel, on entend les sensations par lesquelles nous sommes affectés par l'objet que nous percevons. Effectivement, nous sommes affectés par cet objet, au sens où nous recevons des sensations. Ça, c'est la matière, si vous voulez, de notre expérience. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'aspect formel. Et qu'est-ce qu'il entend ici par cet aspect formel ? Il entend les structures de notre esprit, en fait. les structures de notre esprit qui vont organiser ces sensations, qui vont les mettre en forme, qui vont les coordonner, et vous verrez ainsi que l'espace et le temps, ou la relation de cause à effet, eh bien, ce sont au fond des structures qui viennent de l'esprit, et qui organisent finalement le matériau des sensations. C'est-à-dire que quand nous connaissons, notre esprit n'est pas simplement passif, il ne fait pas que recevoir des sensations, il met en forme ces sensations, il les organise selon l'espace et le temps, et selon des rapports de cause à effet. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a une activité du sujet percevant, une activité du sujet connaissant dans la perception. Et on ne peut pas parler de la perception comme si, effectivement, nous ne faisions que recevoir les sensations qui viennent, finalement, des choses extérieures. Hein ? Alors, donc, vous voyez, enfin, pour le dire d'une façon encore plus simple, je dirais que nous ne percevons et ne connaissons les choses qu'à travers le prisme de notre esprit. Hein ? Et l'on ne peut donc pas prétendre connaître la chose en soi. Je sais qu'elle existe, mais je ne peux pas la connaître. Je sais qu'il y a quelque chose en dehors de moi, puisque je suis affecté par des sensations. Mais ce que la chose est, indépendamment de moi, je ne peux pas le savoir. Vous voyez, c'est inconnaissable. Alors, la conséquence à laquelle aboutit Kant est la suivante. Si on considère la chose en soi, elle est inconnaissable. Alors à ce moment-là, comment Schopenhauer peut-il prétendre en découvrir la nature ? Parce que n'oubliez pas son ambition. L'ambition de Schopenhauer, c'est, vous voyez, de ne pas se contenter de l'écorce de la nature, mais d'aller au fond des choses, de saisir le noyau intime de la nature. Hein, c'est ça qu'il veut faire. Donc, au fond, si on a bien compris, ce que veut faire Schopenhauer, c'est saisir, au fond, la chose en soi. C'est ça qu'il veut faire. Or, moi, si j'ai bien compris ce que disait Kant, c'est impossible. Donc, si vous voulez, le projet de Schopenhauer apparaît un projet totalement insensé, irréalisable. Et pourtant, Schopenhauer prétend percer le mystère de la chose en soi, c'est-à-dire que le mystère de la réalité telle qu'elle est en elle-même. Alors, comment peut-on prétendre accéder à la réalité elle-même ? Comment peut-on prétendre accéder au noyau intime de la nature ? Il y a quelque chose là d'assez déroutant, hein ? Parce que si, à la limite, si nous y accédons, si nous accédons à la réalité intime de la nature, bien elle devient ce qu'elle nous apparaît. Elle n'est plus en soi. Vous voyez ? Donc connaître la chose en soi, supposer que ce soit possible, ben reviendrait au fond à déformer cette chose en soi. Ça reviendrait à la réduire à notre représentation humaine. Et ce serait inévitablement manquer son essence propre. Vous voyez ? Donc, vous voyez, je reprends, si vous voulez, la difficulté, je formule l'impossibilité. Et pourtant, Schopenhauer entend trouver le chemin qui lui permettra d'effectuer le passage du phénomène à la chose en soi. Vous voyez ? Il prétend trouver le moyen d'aller du phénomène à la chose en soi. Alors, évidemment, ici, il faut présenter sa démarche. Si nous cherchons à connaître la chose en soi de l'extérieur, comme on connaît les phénomènes, eh bien, bien sûr, nous ne pourrons jamais l'atteindre. Ça, c'est clair. Et vous allez voir ici que Schopenhauer a une image pour présenter cette impossibilité. Il dit que si on essaie, vous voyez, d'accéder à la chose en soi de manière extérieure, eh bien, on échouera parce que, au fond, la chose en soi sera comme une forteresse inaccessible, une forteresse imprenable. Et vous avez cette métaphore dans le texte 9, page 3. Page 3. Alors, je lis le début et puis la fin de ce petit extrait. Voilà ce que dit Schopenhauer. En conséquence, on ne dépassera jamais la représentation, si vous voulez, la perception, c'est-à-dire le phénomène, c'est-à-dire la chose telle qu'elle apparaît, si l'on part de la connaissance objective, autrement dit de la représentation. On s'en tiendra au côté extérieur des choses, sans pénétrer dans leur être intime, sans connaître ce qu'elles sont en soi et pour soi. Jusqu'ici, je suis de l'avis de Kant. Bon. Et puis, je vais plus loin. Je vais à la ligne 11. En conséquence, si nous ne pouvons pas pénétrer du dehors jusqu'à l'être propre et intime des choses, une route partant du dedans nous reste ouverte. Ce sera en quelque sorte une voie souterraine, une communication secrète qui, par une espèce de trahison, nous introduira tout d'un coup dans la forteresse contre laquelle étaient venues échouer toutes les attaques dirigées du dehors. Alors, vous voyez, c'est une métaphore qui vaut ici éclaircir. Donc, la chose en soi, c'est une forteresse imprenable. Si on essaie d'y pénétrer d'extérieur. Vous avez compris. Si on cherche à la connaître comme on connaît les choses à partir de l'expérience que nous en avons. Et là, pas de problème, Kant a tout à fait raison. Mais précisément, pour accéder à la chose en soi, il faut procéder d'une manière complètement différente. Il faut pénétrer dedans. Hein, c'est ce que dit ici Schopenhauer. Il faut pénétrer dedans. Il faut trouver, comme il dit, une route qui parte du dedans. Ou, je reprends encore une autre métaphore, il faut trouver une voie souterraine qui nous permette de nous introduire dans la forteresse, comme par trahison. C'est-à-dire, on a soudoyé un soldat et on a réussi à entrer. Hein. Dans la forteresse. Bon, vous voyez l'image. Bon, alors, évidemment, la question c'est de quelle voie souterraine s'agit-il ? Alors, à ce stade, je vais vous décevoir. Nous ne pouvons pas en dire encore beaucoup de choses. C'est quelque chose que nous verrons mieux la séance suivante. Mais je peux tout de même en dire un minimum. Je peux tout de même en dire un minimum. Non, mais je ne vais pas non plus vous laisser sur votre faim. Non, mais si, on peut dire que cette voie souterraine, on verra, elle consiste à partir de l'expérience intime, interne, que nous avons de notre propre corps. Nous sommes un corps vivant. Nous sommes un corps vivant, et parce que nous sommes un corps vivant, eh bien, nous percevons que nos comportements procèdent d'une force active en nous qui s'exprime à travers eux. Et quelle est cette force active qui s'exprime en nous, dont nous faisons l'expérience intime ? Eh bien, c'est cette fameuse volonté. Cette fameuse volonté dont je vous ai déjà parlé. Mais alors attention, évidemment, je redis ce que j'ai déjà dit, mais il faut le redire. Ce terme de volonté n'a rien à voir avec le sens que nous lui accordons ordinairement. Pour nous, ordinairement, la volonté, c'est une faculté de choix réfléchi. Vous voyez ? Où on décide, on délibère et on décide de notre action. Ce n'est pas ça du tout. La volonté, c'est une sorte de force aveugle. Alors, il faudrait d'ailleurs, plutôt que de traduire le mot allemand « Wille » par « volonté », il faudrait dire plutôt « le vouloir », pour éviter toute confusion. La volonté, c'est une force aveugle et même une force cosmique. Une force cosmique qui est inhérente donc à la nature, qui est dedans la nature et qui est à l'origine de ces manifestations. Et cette force, nous en faisons l'expérience, à travers nos désirs, à travers nos appétits, à travers... Vous voyez, nous ne cessons de désirer, nous ne cessons d'avoir envie, nous sommes constamment en proie à cette force qui nous anime. Vous voyez, c'est ça que veut ici souligner Schopenhauer. Et donc, c'est ça qui va faire l'originalité de la philosophie de Schopenhauer, c'est que finalement, c'est en retournant en quelque sorte à l'expérience intime que nous avons de notre propre corps, que nous allons pouvoir comprendre ce qu'il en est finalement des forces de la nature. Vous voyez ? C'est cette expérience-là qui va nous guider hein, pour cerner finalement la chose en soi. Puisque la chose en soi, finalement, c'est la volonté, essentiellement. Alors évidemment, je vous dis ici, ce que je vous dis est très élémentaire. Hein. Il faudra évidemment comprendre de quelle façon il va procéder et de quelle manière il va évidemment précisément établir la connaissance ici de la chose en soi. Si on peut parler de connaissance, hein. Le terme n'est peut-être pas adéquat. En tout cas, vous voyez, c'est donc l'expérience de la volonté, c'est-à-dire du vouloir qui est en nous, qui est la fameuse voie souterraine qui nous permettra de saisir de l'intérieur la chose en soi, hein, puisque la chose en soi, c'est ce vouloir, c'est cette volonté, dont on verra, comme je l'ai dit, qu'elle est une force cosmique. Elle n'est pas une force purement seulement individuelle, c'est une force cosmique qui s'éprouve en moi de façon individuelle. Vous voyez ? Mais bon, c'est ce que nous aurons à montrer. Mais avant de voir de quelle manière Schopenhauer parviendra à élucider la nature de cette force, il faut d'abord faire un petit bilan sur la question des sciences, et puis ensuite étudier la manière dont le monde est d'abord l'objet de notre représentation. Parce que, vous voyez, le titre du livre de Schopenhauer, c'est « Le monde comme volonté et comme représentation ». Eh bien, pour comprendre l'essentiel, c'est-à-dire que le monde est volonté, il faut d'abord, évidemment, montrer en quoi il est représentation. Vous voyez ? Et c'est ce que nous ferons dans un premier temps. Alors, concernant les sciences, que les choses soient claires, Schopenhauer ne jette aucun discrédit sur les sciences. Il en montre seulement les limites constitutives. En raison du caractère phénoménal de leur objet, vous avez compris ce que ça signifiait maintenant, eh bien, une explication, toute explication scientifique du monde, repose sur un fond insondable, un noyau obscur, un noyau secret, qui pour elle est impénétrable. Rappelez-vous ce que nous avons dit des forces de la nature. Ainsi, les sciences nous renseignent sur le comment des phénomènes, elles nous renseignent sur le comment des phénomènes, mais sans jamais vraiment nous éclairer sur le pourquoi. Pourquoi la force de gravitation ? On peut simplement décrire ses effets, c'est tout. Là encore, Schopenhauer recourt à une métaphore pour montrer le caractère superficiel des sciences, superficiel au sens où il ne s'occupe que des phénomènes. Et vous avez ici cette métaphore dans le texte 3, qui se trouve page 1, en haut. En haut, page le texte 3. Lisons-le à partir de la petite phrase là qui commence par « Mais l'essence intime des forces ainsi démontrées devrait toujours rester inconnue parce que la loi à laquelle la science obéit n'y conduit pas. » Et ainsi, il faudrait s'en tenir aux phénomènes et à leur succession. Et voilà la métaphore. On pourrait donc comparer la science à un bloc de marbre où de nombreuses veines courent les unes à côté des autres, mais où l'on ne voit pas le cours intérieur de ces veines jusqu'à la surface opposée. Ouais, il y a des images comme ça. Alors, par suite, quelles conséquences en tirer? Au fond, qu'est-ce que va montrer Schopenhauer? C'est que quel que soit l'état des progrès réalisés par les sciences, et on peut dire que les sciences ont réalisé des progrès considérables, spectaculaires, eh bien, quel que soit l'état de leurs progrès, elles ne sauraient répondre à la question « qu'est-ce que le monde ?». Elles ne sauraient résoudre l'énigme du monde en découvrant son essence. C'est-à-dire que les sciences étudient les phénomènes du monde, mais elles n'étudient pas l'essence du monde. Hein, faut être clair là-dessus. Et on peut même dire, au contraire, que plus les sciences progressent, c'est-à-dire plus elles nous rendent familier le monde que nous habitons, en nous faisant connaître les rapports de causalité qui président à ces changements, à ces modifications, plus elles nous le rendent obscur et énigmatique, en mettant au jour ces forces inexplicables de la nature par lesquelles cette causalité est seulement possible. Car au fond, plus les sciences avancent, plus elles découvrent des forces de la nature, mais qui, évidemment, échappent, ne peuvent qu'échapper à leur explication. Et puisqu'en effet, la nature, donc je répète, se présente comme un champ de force agissante dont les sciences peuvent étudier rigoureusement les manifestations, mais dont elles ne peuvent pas éclairer la présence. Alors, ici, regardez bien le texte numéro 5, page 2, ligne 14. Quand même notre expérience serait absolument achevée, la situation n'en serait guère changée. Et quand même vous auriez parcouru les planètes de toutes les étoiles fixes, vous n'auriez pas encore de ce fait avancé d'un pas dans la métaphysique. Plus les progrès de la physique... Alors, il emploie ici le mot physique au sens ancien. La physique, l'étude de la nature, hein, de manière générale. Hein. Plus les progrès de la physique seront grands, plus vivement ils feront sentir le besoin d'une métaphysique. Et on peut aller plus loin. Ligne 25. Ligne 25 à 30. Plus notre connaissance de l'essence des objets particuliers sera complète et exacte, plus impérieusement s'imposera à nous la nécessité d'expliquer l'ensemble et le général. Et plus la connaissance empirique, c'est-à-dire par l'expérience, de cet élément général aura été juste, précise et complète, plus mystérieux et plus énigmatique il nous paraîtra. Alors que les sciences, vous voyez, sont condamnées à traiter de la surface des choses, la surface des phénomènes, à l'époque de Schopenhauer, bien des savants affichent la prétention de connaître le monde en lui-même. C'est-à-dire que les savants auxquels a affaire Schopenhauer à son époque prétendent se passer de la métaphysique parce qu'ils font comme si leur science, au fond, équivalait à une métaphysique. C'est-à-dire que ils dédaignent effectivement la philosophie parce qu'ils considèrent, au fond, que les sciences ont détrôné la métaphysique. Et qu'elles sont capables de parler du monde en lui-même. Et c'est justement cette prétention que Schopenhauer considère illégitime. Parce que, au fond, ce que font ces savants, c'est qu'ils transforment leur science en métaphysique. C'est-à-dire qu'ils tombent dans ce travers, dans cette illusion qui s'appelle le scientisme. Le scientisme, oui, c'est cette attitude qui consiste à ériger les sciences en métaphysique. À considérer que les sciences, finalement, vous donnent le dernier mot sur la réalité, sur le monde. Pour le dire à la façon de Kant, au fond, le scientisme, c'est cette attitude qui consiste à ériger le phénomène en chose en soi. Vous voyez ? Eh bien, c'est justement contre cette prétention scientiste que Schopenhauer s'insurge à la fin du paragraphe. Si vous regardez bien les dernières lignes du paragraphe, ligne 36... Ligne 36. Aussi de nos jours, l'écorce de la nature est-elle minutieusement étudiée ? On connaît par le menu les intestins des vers intestinaux et la vermine de la vermine. D'ailleurs, on pousse de plus en plus des recherches dans ce domaine. Mais vient un philosophe comme moi qui parle du noyau intime de la nature. Ces gens ne daigneront plus écouter, estimant que cette étude est étrangère à la science, et continueront à éplucher leur écorce. Donc, vous voyez, il y a un certain humour hein, chez Schopenhauer. Donc, vous voyez ici, au fond, ces savants, ils poussent toujours plus leur recherche d'une façon très minutieuse, mais je dirais la philosophie qui s'interroge, ou la métaphysique qui s'interroge sur le fond de la nature, ça ne les intéresse pas. Alors, ces analyses conduisent à une redéfinition de la métaphysique. Parce qu'ici, il faut tout de même dire une chose. Traditionnellement, la métaphysique était cette discipline qui prétendait s'élever par les seules ressources de la raison au-dessus de l'expérience. Le métaphysicien, c'est celui qui quittait le domaine de l'observation, quittait le domaine de l'expérience pour s'élever à l'absolu. Hein, c'est comme ça que se caractérisait la métaphysique. Hein. Donc la métaphysique, c'était cette discipline fondée sur la raison qui consiste à s'élever au-dessus de l'expérience pour atteindre la connaissance de réalité absolue. Alors, quelles étaient ces réalités absolues? Eh bien, on prétendait, par exemple, accéder ainsi à la connaissance de l'âme. On appelait ça l'âme. L'âme, c'est quoi? Ben, on désignait par là cette substance éternelle à laquelle on peut rapporter toutes les pensées. Vous voyez? L'âme, vous voyez, c'était le principe subjectif, si vous voulez, considéré comme éternel, auquel se rapporteraient toutes les pensées qui sont en nous. Vous voyez, l'âme. Deuxième idée, deuxième réalité absolue, on parlait du monde, le monde comme l'être dans sa totalité qui, auquel se rapportent tous les phénomènes, auquel se rapportent toutes les existences. Le monde, c'est, vous voyez, le tout dans lequel se trouvent toutes les existences, tous les phénomènes. Bon, on compensait le monde. Et puis troisième réalité absolue qu'on prétendait connaître ici par la métaphysique, Dieu. Dieu désigné ainsi l'être, qui est au principe de toute existence, qui est la source aussi bien d'ailleurs de l'âme que du monde. Vous voyez, voilà comment, au fond, la métaphysique se présentait. Elle se présentait comme cette science, entre guillemets, qui prétend connaître l'absolu. Or, justement, dans sa critique de la raison pure, le philosophe Kant fait la critique de cette prétention théorique, et ce que dit Kant, c'est que la métaphysique ne peut pas prétendre être une science. Elle ne peut pas prétendre être une science car il n'y a de science que dans les limites de l'expérience. Il n'y a de science que phénoménale, pour reprendre encore ce terme. Il n'y a de science que dans les limites de l'expérience. Tout discours qui prétend s'élever au-dessus de l'expérience par les seules ressources de la raison est un discours illusoire. Et ça, c'est la critique de Kant. Eh bien, sur ce point, Schopenhauer donne raison à Kant. Si, effectivement, on entend la métaphysique de cette façon, oui, elle est une illusion. Mais justement, Schopenhauer n'entend pas la métaphysique de cette façon. Il redéfinit la métaphysique. Il en change le sens. Il en transforme le sens. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une discipline qui prétend s'élever au-dessus de l'expérience, hein, mais la véritable métaphysique ne s'abstrait pas de l'expérience, au contraire, tout au contraire, elle va chercher à comprendre à fond l'expérience. Mais qu'est-ce que ça veut dire, comprendre à fond l'expérience? Ça voudra dire ne pas se limiter à l'écorce de la nature, ne pas se limiter aux phénomènes, mais chercher à élucider ce qui est en dessous, en quelque sorte. C'est-à-dire le noyau intime de la nature. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience à fond, c'est une expérience qui ne se limite pas à la surface, mais qui creuse en quelque sorte, hein, pour atteindre le noyau. Hein. Et comment va s'opérer cette démarche ? Elle va s'opérer au cœur de l'expérience. On ne va jamais quitter l'expérience. C'est-à-dire que Schopenhauer prétend que c'est en recourant à l'expérience qu'il va pouvoir ainsi aller du phénomène, en quelque sorte, à ce fond, à cette source qui nous apparaît invisible. Vous voyez ? Alors, et là, je reprends encore cette formule que je vous ai tout à l'heure citée, qui se trouve écrite dans le plan. Hein, regardez bien, je la reprends, cette formule. Vous voyez, et là, on va peut-être pouvoir mieux la comprendre, maintenant que nous avons dit tout ce que nous avons dit. Alors, vous voyez, reprenez cette formule. C'est en acquérant l'intelligence du monde lui-même que l'on arrive à résoudre le problème du monde. Ainsi, le devoir de la métaphysique n'est point de passer par-dessus l'expérience, vous voyez, non, c'est fini ça, en laquelle seul consiste le monde, mais au contraire, d'arriver à comprendre à fond l'expérience. Comprendre à fond l'expérience, c'est-à-dire de ne pas simplement s'en tenir au phénomène, mais aller à la source des phénomènes. Essayer de parvenir à la source des phénomènes. C'est-à-dire aux forces, finalement, aux forces, aux fameuses forces qui s'expriment dans les phénomènes et qui sont invisibles. Alors voilà, vous voyez, vous commencez, j'espère, un peu à comprendre. Mais avant de voir comment l'accès à la chose en soi est possible, il faut montrer que le monde et d'abord, pour nous, représentation. Avant de montrer que le monde est volonté, puisque la chose en soi, c'est la volonté, eh bien, il faut montrer que le monde est d'abord, pour nous, représentation, et c'est l'objet du premier livre, du monde comme volonté, comme représentation. Hein ? Il commence, vous voyez, la première formule du livre, c'est « Le monde est ma représentation ». Ça commence comme ça. Le monde est ma représentation. C'est comme ça que débute le livre de Schopenhauer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, vous allez prendre la page 3, puisque c'est surtout la page 3 qui va nous servir. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le monde est ma représentation. Ben, il est ma représentation en tant qu'il est perçu par moi. Il est perçu par moi, c'est-à-dire qu'il est perçu par un sujet doué de conscience. Donc, le monde est un objet qui s'offre ici à ma perception. Il apparaît comme un objet à un sujet qui le perçoit. Et ici, retenez bien les termes, objet, sujet. Objet, ce qui est perçu, et évidemment, sujet, ce qui perçoit. Lisons les premières lignes du fameux premier paragraphe. Je ne vais pas tout lire, je vais lire ce qui me paraît le plus significatif. Donc, c'est le texte numéro 10. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant. Bien que chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. C'est-à-dire, sous-entendu, vous voyez, que ce que dit ici Schopenhauer ne concerne pas exclusivement l'homme. Il peut y avoir une conscience animale. Mais, disons que la conscience humaine serait la seule à pouvoir atteindre un niveau d'abstraction et de réflexion. Je poursuis. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Là, c'est une formule très intéressante. Il faudra méditer. Donc, je reprends. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. Bon, et je vais plus loin, je lis la ligne 21. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe, existe pour la pensée, c'est-à-dire l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot, il est pure représentation. Alors, voilà, ça c'est un texte qu'on va expliquer. Et ce soir, on n'ira peut-être pas tellement plus loin, mais il faut au moins comprendre cela. Pour la conscience immédiate. La conscience immédiate, c'est la conscience spontanée que j'ai des choses. Conscience immédiate, c'est une conscience qui n'est pas réfléchie, si vous voulez. Pour la conscience immédiate, la perception que nous avons du monde va de soi. Elle ne fait pas de problème. C'est-à-dire, cette conscience immédiate ne s'interroge pas sur les conditions qui permettent la perception du monde. Le rapport du sujet qui perçoit le monde avec le monde qu'il perçoit n'a rien de problématique. On est d'accord. Selon la conscience immédiate, c'est parce qu'il y a le soleil, c'est parce qu'il y a la terre que nous percevons le soleil et la terre. Et d'accord. Donc, selon la conscience immédiate, la conscience serait ainsi comme une sorte de vitre transparente qui laisserait voir les choses telles qu'elles sont. Et le soleil et la terre existeraient quand bien même il n'y aurait plus d'œil pour voir le soleil, ni de main pour toucher la terre. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est la conscience immédiate qui finalement pratique une sorte de réalisme un peu naïf. Le réalisme naïf de la conscience immédiate oublie le fait que le soleil et la terre n'existent que pour autant qu'ils sont perçus. Ils n'existent que pour autant qu'ils sont perçus. C'est-à-dire un monde que nul sujet ne percevrait n'aurait aucune réalité. Un monde qui ne serait perçu par aucun sujet n'aurait aucune existence, n'aurait aucune réalité. Ou pour le dire autrement, le monde n'a de réalité que relativement à un sujet qui le perçoit, qui se le représente. Alors, ça ne signifie pas, attention, ne vous méprenez pas sur le sens de ce que dit Schopenhauer, ça ne signifie pas que le monde est une pure donnée fantomatique. Qu'il soit une pure illusion. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il s'agit seulement de comprendre que si on s'interroge sur l'existence du monde, eh bien, il faut nécessairement partir de la représentation que nous en avons. C'est comme ça. On ne peut s'interroger sur l'existence du monde qu'en partant de la perception que nous en avons. Et donc, c'est pour ça que je souligne à ce moment-là la phrase qui vient, ligne 20, vous voyez, qu'est-ce que dit, ou ligne 22 plutôt, tout ce qui existe, regardez, tout ce qui existe, existe pour la pensée. C'est-à-dire, l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot, il est pure représentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler du monde, ou plutôt, nous ne pouvons parler du monde qu'à travers la représentation que nous en avons. Que pourrait-on dire d'une chose si nous n'en avions jamais la moindre expérience ? si nous n'en avions jamais la moindre perception. Donc, vous voyez, je dis des choses très simples. Ce que dit Schopenhauer est très simple. Et quand il insiste là-dessus, Schopenhauer ne prête pas au sujet une pure indépendance à l'égard du monde qu'il perçoit. Parce que justement, dans le deuxième paragraphe, dans le chapitre qui va venir après, eh bien, qu'est-ce que va montrer Schopenhauer ? C'est que le sujet percevant et l'objet perçu, c'est-à-dire le sujet et le monde, sont dans un rapport de réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, l'objet, c'est-à-dire le monde, n'existe que par et pour le sujet qui le perçoit. Sinon, on ne pourrait pas parler de réalité du monde. Il n'existe que relativement à un sujet qui le perçoit. Et réciproquement, le sujet n'est sujet que dans la mesure où il perçoit le monde. Il n'y a de sujet que dans la mesure où il perçoit ici cet objet qu'est le monde. Vous voyez, les deux sont complémentaires. Et en fait, d'une certaine manière, il y a une discipline philosophique qui rejoindra cette idée, c'est la phénoménologie. C'est-à-dire qu'une certaine manière, il n'y a pas de sujet sans objet, il n'y a pas d'objet sans sujet. Alors, vous trouvez par exemple, dans le deuxième texte, regardez bien, cette fois-ci, le texte 11, un passage, ici, qui me paraît assez clair, ligne 19, « Le monde considéré comme représentation, seul point de vue qui nous occupe ici, comprend deux moitiés essentielles, nécessaires et inséparables. La première est l'objet, qui a pour forme l'espace, le temps et par suite la pluralité, dont on expliquera après. La seconde est le sujet. Je laisse ici la suite. Et puis je vais directement à la ligne 30. Ces deux moitiés sont donc inséparables, même dans la pensée. Chacune d'elles n'est réelle et intelligible que par l'autre et pour l'autre. Elles existent et cessent d'exister ensemble. Elles se limitent réciproquement. Et où commence l'objet ? Le sujet finit. Donc, de même qu'il n'y a pas d'objet sans sujet, de même qu'on ne peut pas parler de l'existence du monde sans un sujet qui le perçoit, on est d'accord ? Eh bien, de la même façon, réciproquement, il n'y a pas de sujet sans objet, il n'y a pas d'existence subjective, si vous voulez, sans un monde auquel elle se rapporte, sans un monde qu'elle perçoit. Il n'y a pas de pur sujet, vous voyez, indépendant, finalement, du monde. Et ici, c'est une façon de dire qu'on ne peut pas parler, au fond, d'une âme qui serait, au fond, intemporelle et qui existerait indépendamment, finalement, de son incarnation, de son insertion dans le monde, dans son rapport au monde. Donc, puisqu'il n'y a d'objet que pour un sujet, eh bien, on ne peut pas considérer la connaissance que nous avons des choses indépendamment des structures qui constituent ce sujet. Et vous allez retomber sur le problème qu'on a déjà un peu évoqué. C'est-à-dire qu'au fond, si on réfléchit ici au monde comme représentation, il va falloir réfléchir justement aux structures de la représentation, aux structures de la perception, aux structures du sujet connaissant. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Parce que la connaissance, elle s'enracine dans une subjectivité. Et quelles sont les structures de cette subjectivité ? C'est ça qu'il faut mettre à jour maintenant. Encore une fois, dans la mesure où nous ne pouvons pas parler de la connaissance de la chose en soi, hein, nous ne pouvons parler de la connaissance que des choses telles qu'elles apparaissent à notre esprit. Et notre esprit, ben, elle est structurée d'une certaine manière. Eh bien, vous voyez ici, c'est ce que va faire Kant. Oui, c'est un lapsus révélateur, ce que va faire Schopenhauer à la suite de Kant, mais en modifiant un peu les choses. Il va examiner les structures du sujet humain pour réfléchir justement sur la représentation. Il va dégager les conditions qui, dans le sujet humain, rendent possible la perception et la connaissance qu'il a du monde. Et au fond, toutes ces conditions sont résumées sous un principe, mais là je ne vais pas m'étendre, je vais simplement nommer le principe et on verra ça la prochaine fois. Et ces conditions sont résumées pour Schopenhauer sous un même principe qu'il appelle le principe de raison suffisante. Le principe de raison suffisante, bon, on expliquera. Simplement, ce que je peux dire déjà, c'est que ce principe regroupe trois conditions qui structurent la perception. L'espace, le temps et la causalité. L'espace, le temps et la causalité. C'est un peu modifié, il y aura une modification, mais enfin c'est le même esprit que celui de Kant. En fait, l'espace et le temps, ce sont les formes a priori de la sensibilité. C'est-à-dire, en fait, l'espace et le temps, c'est la manière dont notre sensibilité organise le matériau des sensations, spontanément. C'est-à-dire qu'au fond, dans notre esprit, si vous voulez, il y a des structures qui conditionnent finalement la manière dont nous nous rapportons aux choses. Alors pour dire les choses simplement, quand nous percevons les choses, nous les percevons dans l'espace, c'est-à-dire juxtaposées, les unes à côté des autres. Quand nous percevons des expériences, nous les percevons successivement, selon le temps. Et évidemment, pour Kant comme pour Schopenhauer, le temps et l'espace ne sont pas des réalités objectives. Hein ? Alors évidemment, il faudra peut-être s'en expliquer, là, vous retrouvez la question du temps. Là. Le temps, c'est une structure du sujet humain. Hein ? C'est quelque chose de subjectif, si vous voulez. Sans le sujet humain, il n'y a pas de temps. Hein ? Alors évidemment, c'est une chose qu'il faudra voir. J'espère que cela n'a pas été trop compliqué. Bon. Je vais arrêter là. Hein. Alors, si vous avez des questions, après, même parce qu'après, à tête reposée, les questions peuvent arriver, n'hésitez pas à les écrire. Hein. Bon, je ne vous réponds pas tout de suite, hein, parce que parfois, j'ai un autre chose à faire, mais je vous réponds, dans la mesure de mes possibilités. Et en plus, vos questions, elles peuvent intéresser tout le monde. Hein. Je veux dire que il n'y a pas de questions idiotes, hein, je vous dis tout de suite. Une question peut être mal formulée, peut-être dénote-t-elle une incompréhension, mais ça c'est vrai, c'est possible, mais bon, c'est pas grave. Oui ?
Est-ce qu'il y a eu toujours une opposition entre le scientifique et le philosophe ? Là, ici, on a l'impression que le scientifique est négligeable par rapport à l'esprit du philosophe.
Il est ?
Négligeable par rapport à
l'esprit. En un sens, oui. Non. Oui, mais en même temps, enfin.
Ils sont complémentaires, mais il y en a un qui est quand même.
Ah ben, la philosophie a une ambition plus grande. Alors, c'est la métaphysique. Science du monde. Science qui permet d'atteindre le noyau intime des choses, la chose en soi. Alors, évidemment, je vous dis encore une fois, ça fait sourire. Quand on entend ça la première fois, on se dit, bon, franchement, il rêve là. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière. C'est pour ça qu'il faut, tout de même passer un peu de temps sur ce que montre Schopenhauer hein, dans sa philosophie générale avant d'aborder les textes que nous allons lire, parce que il faut bien comprendre sa démarche, c'est une démarche très originale. Oui.
Oui, je voudrais savoir que tu redéfinisses les termes en soi et pour soi, parce qu'à un moment donné, il parle de choses en soi,
donc ah oui.
Il parle d'une chose en soi et pour soi.
Oui.
Il y a une différence entre les.
Ah. Oui, c'est vrai que. Bon, j'ai pas vraiment fait attention. C'est vrai qu'il dit ça à un moment donné.
Oui,
alors, est-ce que c'est où ?
Alors, c'est à 9 de page 3.
Page 3.
Paragraphe 9. Sous
1, 2, 3, 4, 5. Oui. En conséquence, on ne dépassera jamais la représentation, c'est-à-dire le phénomène. Le phénomène, c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent. Si on parle de la connaissance objective, des objets et de leur expérience, autrement dit de la représentation, on s'en tiendra au côté extérieur des choses, sans pénétrer dans leur être intime, sans connaître ce qu'elles sont en soi et pour soi. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. En soi, bon, ça on a compris, c'est la chose telle qu'elle est indépendamment de nous. Pour soi, est-ce qu'elle.
Est-ce que la. Ça veut dire que c'est la, la chose elle-même
qui existe pour elle-même.
Qui existerait pour elle-même, pour l'entendre comme ça.
Ouais, mais là, je sais pas, je peux pas répondre. Hein. Franchement, c'est un texte que je découvre hein, aussi. Hein. Bon, donc, vous avez remarqué qu'il y a des choses parfois, je glisse, j'explique pas. mais ça veut pas dire que je fuis. Ça veut dire que j'y reviendrai plus tard, parce que c'est vrai que bon, il y a des choses, faut admettre qu'on puisse pas toujours bien comprendre. Ça s'éclaircit au fur et à mesure. On lit un texte. C'est normal qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. Hein. Donc, ce serait anormal de comprendre tout de suite. Donc, là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas.
Ça peut être un sujet.
Oui, alors, ça veut dire, pour soi, ça voudrait dire qu'on a affaire à une réalité qui est pour elle-même, qui est comme un sujet. Oui, effectivement. Ça va vers ça. Ça va vers ça. C'est comme s'il y avait... Oui, alors, mais et là, peut-être, effectivement, ça s'éclaircira plus tard, quand on va penser la question de la volonté.
Oui, la volonté.
Voilà, absolument.
En soi,
absolument. En soi et pour soi. Absolument. D'accord. Absolument. Peut-être. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Oui.
Mais alors, le sujet pour Schopenhauer, il n'appartient pas au monde. Il me semble qu'il l'extrait artificiellement du monde.
Ah non. Non, mais ça va s'expliquer. On va arriver à expliquer ça. C'est-à-dire que le sujet, il est le sujet, c'est le point de vue du sujet, c'est le point de vue de notre perception, c'est tout, que nous avons des choses. Ça ne veut pas dire que le sujet, il est détaché du monde. Le sujet, il est une émanation du monde. Nous sommes, en tant qu'êtres vivants et pensants, des produits de la nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Schopenhauer, vous verrez par la suite, ne se contentera pas de parler de la représentation comme le fait Kant. Il va montrer qu'il y a une généalogie de la représentation. C'est-à-dire que la représentation, elle naît à partir de ce vivant que nous sommes.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez, une autre approche à ce niveau-là. C'est-à-dire que, mais là, évidemment, je n'ai pas abordé ce point-là. Non, il n'est pas détaché, il n'est pas au-dessus. Mais simplement...
Il est en face.
Ah oui, quand je perçois ce qui est face à moi.
En quelque sorte, il y a une conscience et un monde qui sont face à face.
C'est ça.
Et qui existent
dans la perception, c'est ça.
Pour l'autre et en miroir, en quelque sorte.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je perçois, j'ai un vis-à-vis.
Oui.
Je me distingue de ce que je perçois. Vous êtes d'accord ? Hein ? Bon, il y a sujet-objet. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça que se produit la perception. Et ce que veut simplement souligner au départ Schopenhauer, c'est que si nous ne percevions pas, s'il n'y avait pas un sujet pour percevoir les choses, le monde, comment parler de son existence ? On ne peut témoigner de son existence que parce qu'il y a un sujet qui peut le percevoir, c'est tout.
C'est le socle qui porte le monde, en quelque sorte, cette conscience.
Ah non, elle ne porte pas le monde.
C'est le vouloir.
Ah non, la conscience, ce n'est pas le vouloir. Non, le vouloir, ce sont les forces qui m'animent, qui sont en moi, que j'expérimente. Bon, on n'a pas encore vraiment parlé. Et la conscience, c'est simplement la perception que j'ai des choses, c'est tout. C'est tout. Et on commence par là, parce que c'est par là que ça commence. La première expérience qu'on a des choses, c'est par la perception. Mais ce qui ne veut pas dire que la perception est complètement hors sol. Elle est forcément liée à un corps percevant. Enfin, notre propre corps, par exemple, vous verrez qu'il y a deux points de vue sur le corps. Mon corps, il est un phénomène. Au sens où il peut, où il apparaît à autrui, au sens où il peut être vu, où il a des propriétés objectives. Bon. Mais ça, c'est l'expérience externe qu'on a sur le corps. Hein. Bon. Mais en tant que j'éprouve ce corps, je ne suis pas ici dans la représentation. Je suis dans une expérience intime, une expérience interne, qui, pour Schopenhauer, va prendre un rôle décisif dans, justement, son approche métaphysique. Alors qu'il est, bon, il est, je peux pas tellement en dire plus pour l'instant. Oui, alors allons-y.
Parce que si on prend l'idée, quand même, du premier degré du sujet-objet, l'objet n'existe que parce qu'il y a un sujet qui le regarde. Si on le prend au premier degré, par exemple, moi je me dis que si ça rejoint l'idée de la perception qu'on a de son propre corps, c'est-à-dire si personne ne regarde, j'imagine, je suis tout d'un coup dans un monde où je me retrouve tout seul, personne ne me regarde.
N'existe pas.
Donc je n'existe plus. Je n'existe pas, je disparais. Bon, si on prend au premier degré, d'après l'idée, je vais disparaître, je n'existe plus, puisque personne ne me regarde. Or, si je me retrouve tout seul, même peut-être pendant 10 ans, par exemple, dans le temps, je suis convaincu que j'aurai toujours cette perception de mon corps qui fait que j'existerai toujours parce que j'aurai la perception de ce corps, moi-même, entre moi et moi. Personne ne me verrait, mais en même temps, je suis convaincu que j'existerai parce que j'aurai cette conscience de ce corps, malgré le fait que je ne suis plus objet pour personne, de regard de personne.
Alors, là, je ne sais pas si on dévie pas un peu du texte de Schopenhauer, mais j'ai besoin de vous répondre. Ce qui est certain, c'est que, bon, je n'ai l'assurance vraiment d'exister que parce que je suis regardé. C'est ça que vous dites. Oui. Ben, c'est bien sûr. Mais là, la limite, ce n'est plus la question de la perception, là. C'est la question de mon identité qui se pose. Hein. Et ce qui est vrai, c'est que l'expérience que je fais de ma subjectivité, elle est toujours... elle intègre, au fond, cette dimension objective que j'ai pour autrui. Parce que je suis regardé. Oui ? Excusez-moi. Oui ?
La réponse, c'est Descartes, je pense,
je suis. Oui, mais je pense, je suis, c'est le donc, c'est pas un raisonnement. Hein, c'est du seul fait de penser, je suis certain d'exister. Mais à la limite, cette pure pensée, elle se passe totalement de toute expérience. C'est une pure... On va s'écarter là du sujet. Pour revenir à votre question, votre problème c'était savoir si je peux avoir la conscience d'exister
sans être regardé.
Sans être regardé. D'abord, c'est pas le problème que se pose Schopenhauer, hein, déjà. Bon, mais là il se pose pas cette question. Certaines façons directement. Il dit simplement qu'il n'y a de monde que pour un sujet qu'il perçoit. D'accord. Alors vous me direz que moi je fais partie du monde en tant que je suis objet. À ce moment-là, je suis objet pour autrui.
Voilà, c'est
je
ça,
suis d'accord.
C'est ça,
mais
c'est pris au premier degré, c'est ça que je voulais.
Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est pas. Premier degré, c'est la seule question qu'il veut simplement souligner, c'est que on pourrait pas parler de la réalité des choses s'il n'y avait pas un sujet pour l'apercevoir, c'est tout. Bon, maintenant, comme votre question, c'est est-ce que je peux me sentir exister sans le regard des autres, je pourrais répondre que non, on a besoin de la confirmation de ce regard pour se sentir exister. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est se sentir exister? C'est se sentir objet du regard d'autrui. Et j'intériorise cet objet, d'ailleurs. Donc, au fond, dans l'expérience que j'ai de moi-même, je ne suis pas une pure conscience. Je me rapporte à moi comme objet du regard d'autre, comme celui qui est qualifié par les autres, comme celui qui est aimé ou haï ou je ne sais quoi. Bon, donc c'est une expérience importante, ça, effectivement. Et si j'étais absolument seul, complètement abandonné, sans regard porté sur moi, ou si jamais il n'y avait eu jamais aucun regard porté sur moi, effectivement, ça aurait des effets pathologiques. On est bien d'accord.
Ce sera une moindre façon d'exister.
Oui, voilà.
Différentes
voilà.
Façons de
voilà.
Le terme exister peut avoir des différents degrés.
Ça. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que dans notre texte, Schopenhauer n'aborde pas cette dimension-là. Il aborde ici simplement le fait qu'il faille un sujet pour qu'il y ait un objet. Il faut pour que
le monde puisse dire qu'il existe, il faut un sujet qui le perçoive. C'est tout. Il se limite à ça, hein, ici, dans le texte. Hein? Voilà, c'est, je crois que... Alors, il y a d'autres questions?
Oui? Mais alors, là, est-ce que les lois, en quelque sorte, de la physique réexistent à la matière, dans ce cas-là? Est-ce que... sont un socle qui serait là... Ça suppose l'existence de la matière, me semble-t-il,
oui,
qu'il y ait des lois qui oui.
Elles sont inhérentes à la matière.
Oui, c'est ça. En quelque sorte, elles sont un peu face à face aussi.
Ben, c'est-à-dire que c'est...
Où sont-elles inscrites, ces lois?
Elles sont dans la nature. Elles sont dans la nature.
Oui, mais où?
Ah ben, elles sont dans la nature. Elles sont ce fond invisible qui se trouve sous l'écorce. Si vous voulez, je reprends la métaphore. C'est comme vous ne pouvez pas les observer, vous ne pouvez que les supposer. C'est-à-dire qu'il y a des forces inhérentes à la matière qui font que bon, il y aura pesanteur ou impénétrabilité ou vous voyez. Et ces forces, effectivement, le physicien les présuppose quoi. Il ne peut que les supposer. Il ne peut pas effectivement établir une connaissance de ses forces.
D'un autre côté, les théories rencontrent l'observation avec une précision qui peut
tout à fait
étonner.
Tout à fait. Bon, le génie de Newton, c'est de rassembler des phénomènes qui ont l'air complètement différents les uns des autres et les faire dépendre d'une même loi.
Oui.
Évidemment, apparemment, on ne voit pas tellement le rapport, a priori, enfin... spontanément entre la chute d'une pierre et puis le mouvement des astres. Hein. Et pourtant, c'est la même loi. C'est ça le génie. Bon, mais, ceci dit, encore une fois, cette fameuse force de gravitation, Newton le dit, hein. Il admet qu'il ne peut pas la connaître.
Mais le changement d'état, lui, le changement d'état, l'eau et la glace.
Oui.
D'accord,
mais oui, mais on pouvait décrire les effets de cette énergie, on pouvait exprimer ça de façon rigoureuse.
Le climat,
oui, ben d'accord. Mais la force elle-même.
Ben, la force, c'est l'énergie.
Oui, mais cette énergie.
Cette question regarde Dieu.
Non, Newton, il y a une force ou vous ne voulez pas?
C'est l'exemple le plus facile, oui. C'est vrai. Bon, en fait, il faudrait que, comme la force magnétique, etc., enfin, un tas de forces comme ça, il y a toujours des forces dont on peut décrire les effets de façon absolument rigoureuse, mathématiquement, mais bon, la force à l'origine, bon... C'est pour ça que ce que dit... alors là, je retrouve votre question. Oui, d'une certaine façon, la physique dépend de la métaphysique. Elle dépend. Alors attendez, il ne s'agit pas... Le physicien ne va pas se transformer en métaphysicien, ce n'est pas son boulot. Hein. Mais d'une certaine manière, oui, il est bien obligé de supposer un certain nombre de forces dont il ne peut pas rendre compte. Il ne peut rendre compte que de leurs effets. Et il ne peut que décrire finalement les phénomènes finalement qui s'enchaînent, c'est tout. Voilà. Et on n'a pas à lui reprocher, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Hein?
Le problème, c'est voir comment je pourrais pouvoir aller plus loin que la conscience, la constatation de la force. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que d'abord il y a une force?
Ah, alors là, pour l'instant, je n'ai pas abordé la question.
C'est vrai que c'est quand même
oui, parce que...
difficile, parce qu'il va falloir qu'il intervienne par l'intelligence, et là, on va tomber sur une...
Alors, voilà, voilà, ça, je suis d'accord, il y a un défi.
Ah, oui.
Parce que pour l'instant, bon, je vous ai dit la réponse, mais enfin bon, tout ça n'est pas bien clair. Et est-ce qu'il y a une force qui serait inhérente à tous les phénomènes, qui serait à l'origine de tous les phénomènes, parce que c'est ce que... D'une certaine façon, c'est ce que Schopenhauer va dire. Hein. Ou est-ce qu'il y a des forces Hein ? Bon, non, mais vous avez raison, hein ? Vous avez raison. C'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas un coup de force de la part de Schopenhauer, une sorte d'affirmation arbitraire ? Qu'est-ce qui va lui permettre d'affirmer cela ? Sur quoi ? Oui, alors là, je suis d'accord, pour l'instant...
On le saura la prochaine fois.
Après. Voilà. Et on va essayer de l'éclairer. Mais pour l'instant... Non, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est, vous voyez, lire un texte, c'est pas avoir tout de suite les réponses. Et je pense que c'est tout à fait bien de, je dirais, de...
Oui, de comment s'interroger au fur et à mesure.
De formuler des objections, dire, mais enfin, qu'est-ce qui... Non, mais il déconne, là,
restant,
là qu'est-ce
que restant, c'est... Voilà. Vouloir dire, bon, c'est pas bon, etc.
Voilà, non, non, ah oui, 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 oui. Non, moi, bon, je vous dis, c'est un auteur que je connaissais pas spécialement, et je trouve assez agréable à lire.
C'est
il y a même de l'humour et des métaphores, il y a, bon... voilà, c'est... Alors, peut-être là, il y avait un aspect un petit peu, peut-être un peu compliqué, je ne sais pas, on sait rien, mais je ne sais pas comment vous l'avez prouvé. Mais bon, c'est une familiarisation aussi hein, qui joue.
Mais la question du mal me semble quand même assez à part de ce dont on a parlé aujourd'hui.
Ah oui, ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Alors là, oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que pour l'instant, effectivement, quel rapport entre ce qu'il dit des forces de la nature et puis cette force qui est à l'origine du mal. Hein, on ne voit pas trop bien. Je suis d'accord. C'est vrai que... pour l'instant, on ne voit pas. Je suis d'accord avec vous. Donc, il va falloir vraiment regarder ça de plus près.
Il y a deux termes que je trouve intrigants.
Oui, allez-y.
Connaissance matérielle et connaissance formelle. Est-ce que ça veut dire que Schopenhauer nous invite à...
Alors, où c'est ça
à... Alors, j'ai pris une note en cours de route.
Ah. Connaissance matérielle, connaissance... Et alors, reprenez votre question alors. J'ai
alors,
pas entendu.
Est-ce que ça veut dire que Schopenhauer nous invite à approfondir les sciences pour accéder à un niveau supérieur de...
Et quelle formule vous...
Connaissance matérielle, vous avez parlé...
Ah non, j'ai dit que dans la connaissance des choses, c'est enfin la connaissance des phénomènes...
Un peu.
Non, alors ce que je veux dire, c'est que la connaissance est composée de deux éléments, si vous voulez. C'est-à-dire un élément matériel, c'est-à-dire en fait, pour connaître, je ne connais les choses que si je suis affecté par ces choses. C'est-à-dire que, j'ai des sensations... qui me viennent justement des choses qui sont à l'extérieur. Ça, c'est l'aspect matériel.
Les sensations primaires, quoi.
Oui, quelles qu'elles soient. C'est le côté, c'est l'aspect matériel et l'aspect, je dirais, passif de la connaissance.
Nous sommes en opposition avec la connaissance formelle.
Alors, non, c'est pas une connaissance formelle, c'est l'élément formel de la connaissance. C'est-à-dire les structures qui conditionnent ma connaissance, les structures du sujet humain qui conditionne.
C'est le sujet qui organise ses
connaissances. Voilà, c'est ça. C'est au sens, et je parle de forme au sens de structure. C'est-à-dire qu'il y a dans le sujet humain des structures qui vont organiser le matériau des sensations. Les sensations, je ne les reçois pas de façon disparate. Elles sont organisées, elles sont structurées.
Mais est-ce que ça veut dire que Schopenhauer nous invite à approfondir les sciences pour aller plus loin ?
Là, c'est pas pour ça que je le disais. Je ne faisais que décrire le processus de connaissance. C'est-à-dire la connaissance, toute connaissance a deux aspects. Un aspect matériel, au fond, il y a des sensations. Mais s'il n'y avait que des pures sensations, bah, je ne connaîtrais rien. Si je ne faisais qu'éprouver des sensations, je ne pourrais rien connaître. Ce ne serait qu'un magma de sensations, c'est tout. Et pour qu'il y ait connaissance, il ne faut pas simplement éprouver les sensations, il faut que ces sensations soient organisées, structurées. Et d'où viennent les structures qui organisent les sensations ? Elles viennent du sujet humain lui-même. Alors, il y a l'espace et le temps, il y a les catégories de l'entendement, enfin bon, c'est ce que fait Kant, hein, il fait l'inventaire, finalement, des structures du sujet humain qui permettent, au fond, la perception et la connaissance. Et ce que fait Schopenhauer aussi. C'est mieux là, c'est plus clair. Non. Donc, oui, en fait, c'était une description des deux composantes, finalement, de toute connaissance. Voilà. Un élément matériel, un élément formel. Vous voyez Mais, en fait, tout ça est imbriqué, hein, évidemment.
Pour ce oui. Il y a une réciprocité entre le sujet et puis la représentation du monde.
Et, parlez plus fort. Oui.
Donc, pour ce problème-là, il y a une réciprocité entre le sujet et puis la représentation du monde. Donc, il y a autant de représentation du monde qu'il y a de sujet.
Ah.
Parce que la perception que j'ai n'est pas alors, la même que
celle de la bonne question. Bonne question, ce qui me permet d'éviter justement un contresens. C'est vrai qu'en fait, c'est Kant qui. Je prends l'erreur ici, hein, c'est la même chose. C'est vrai que si je dis que c'est le sujet qui structure la perception, je peux conclure, je pourrais conclure, qu'au fond, autant de sujets, autant de perceptions, et nous ne percevons pas tous la même chose. Alors, c'est évidemment pas ce que dit ici Kant ni Schopenhauer. Il y a des structures universelles du sujet humain. L'espace et le temps, ce sont des structures universelles qui ne dépendent pas d'individus. Hein? De la même manière, les catégories par lesquelles nous structurons l'expérience sont des catégories universelles du sujet humain. Alors, et d'ailleurs, la connaissance est objective que dans la mesure où elle est structurée justement par ces formes universelles. Si par contre ce que vous voyez diffère, si nous rapportons au même objet, vous le voyez bleu et moi je le vois vert, il ne s'agit pas d'une connaissance objective. C'est-à-dire ça varie en fonction finalement de vos états d'âme, de vos sensations du moment, etc. Oui, là effectivement, c'est quelque chose qui est variable d'un sujet à l'autre. Mais quand on parle d'une connaissance objective, on parle d'une connaissance, évidemment, de choses extérieures, mais telles qu'elles sont en quelque sorte appréhendées par les structures universelles du sujet humain. Vous voyez ? Ce sont les structures universelles du sujet humain qui constituent l'objectivité de la connaissance. Vous voyez ? En ce sens-là. Voilà. Oui ? En quel sens
Il y a deux semaines, on avait vu que le temps était très différent en fonction de la personne qui le percevait.
Et dans l'expérience qu'on a du temps.
Ouais.
Ah non, mais il y a des vécus différents du temps, ça j'entends bien. Mais par contre, la structure même du temps en tant que succession des expériences, c'est quelque chose d'universel. Nous éprouvons tous le temps sous la forme de la succession d'événements. Ah oui, alors par contre, oui, mais alors est-ce que c'est finalement ce que nous n'appréhendons pas de la même façon, c'est pas le temps, c'est la manière dont nous y rapporter. Enfin, c'est notre propre vécu, voyez. C'est ce qui est différent d'un sujet à l'autre, c'est la façon de se rapporter aux événements de sa vie. Mais c'est le temps finalement reste le même. Vous voyez ? Ben, je ne sais pas si je m'explique bien, mais le temps, nous le vivons tous de la même façon que comme sous la forme de la succession d'événements. Maintenant, et quant au contenu temporel de l'expérience, ça évidemment, ça peut varier selon les rythmes de votre vie, hein, selon votre âge, mais finalement, c'est pas vraiment le temps ici qui est en cause. C'est beaucoup plus le contenu des événements, hein, qui caractérise finalement votre vécu temporel. Je dirais ça. Voilà. Peut-être que si vous êtes d'accord, on peut lever le camp.